Je suis Julia Marger, photographe, et je suis en résidence ici donc pour 2 semaines. C'est la fin de ma résidence. J'ai commencé en octobre aussi avec 2 semaines à la Métive. Voilà. J'ai étudié la photographie en Argentine, donc 3 années d'école de photo. Et après, de retour en France, j'ai poursuivi en licence puis master de photographie art contemporain à Paris 8. Et donc j'ai terminé en 2016 et depuis, bah, je travaille en tant que photographe, artiste.
Et t'as fait des installations, t'as des séries de photos
Oui, je travaille notamment autour du secret, donc dans des séries photographiques. Maintenant, je m'ouvre également un peu à la vidéo, à la performance, et j'aimerais essayer le son. Voilà. Un projet qui est assez parlant, c'est Ceci est un secret. Donc, c'est un projet que j'ai commencé en 2015. J'ai demandé à des personnes de mon entourage de me poster en secret. J'ai distribué des enveloppes timbrées et donc à mon adresse et je leur donnais cette enveloppe et je leur demandais en retour de m'envoyer un secret mais de manière anonyme. Et à partir de ces secrets que je recevais au fil des semaines, j'ai commencé à faire des images, donc des mises en scène photographiques. C'était pas forcément une transcription littérale, on va dire, de ce qu'on m'avait écrit. C'était vraiment une inspiration. Enfin, je m'inspirais de ces secrets pour réaliser une image nouvelle, une mise en scène, quoi. À partir de là, j'ai commencé à exposer ce projet. Et maintenant, quand je l'expose, je présente une boîte sous la forme d'une installation. Et j'invite les spectateurs de l'exposition à m'écrire un secret et à me le laisser dans cette boîte. Donc voilà, ça c'est un projet qui est assez parlant parce que tout le monde peut participer et partager avec moi un petit fragment de son intimité. Et les gens aiment bien regarder les images en se demandant quel secret est-ce qu'il peut y avoir derrière. On aimerait souvent avoir accès au texte d'ailleurs, enfin, pour les plus curieux. Et, mais c'est pas possible, je les garde pour moi, c'est quand même mes secrets. Voilà. Et donc, j'ai une collection de secrets, j'en ai une centaine aujourd'hui. D'ailleurs, le 28 mai, une exposition va avoir lieu à la Métive autour de la question du secret. Elle s'appelle « Et il deviendra le secret d'un autre ». Donc là, moi, j'expose pas, mais j'ai travaillé avec le FRAC Artothèque pour sélectionner des œuvres. Et dans le cadre d'un atelier pédagogique, je vais aussi, enfin, donc il y aura un vernissage, et je vais aussi proposer aux spectateurs de me donner des secrets, quoi. Donc, avis aux habitants environnants qui voudraient partager une anecdote ou une histoire avec moi. Voilà, donc j'ai des boîtes d'archives avec une centaine de secrets et ils sont classés, numérotés et j'en prends soin, je les garde pour moi. Voilà.
Et tu as fait d'autres installations
Oui, alors en ce moment j'ai une œuvre qui est exposée au Lavoir numérique à Gentilly. J'ai commencé en 2010 une série d'autoportraits. Je réalise 12 autoportraits par an depuis cette date-là. Et en une seule fois, je photographie 12 facettes qui, selon moi, peuvent faire partie de ma personnalité. Donc maintenant, il y a une inscription temporelle qui est assez importante puisque 10 années se sont écoulées. Et j'ai présenté ce projet sous la forme d'une installation. L'installation questionne la question de comment on se présente et comment est-ce qu'on souhaite être vu dans les réseaux sociaux notamment et tout ce qui est un peu les préjugés qu'on peut avoir face à l'image de quelqu'un. Alors que ce n'est qu'une image. Et donc, c'est une application face à laquelle le spectateur se trouve et doit choisir 2 adjectifs qualificatifs. Et donc, une de mes images, qui a été réalisée entre 2010 et 2020, apparaît. Et elle a forcément rien à voir avec les adjectifs. Donc c'est des adjectifs qui sont souvent employés pour qualifier les femmes sur les réseaux. Et donc je me suis intéressée un petit peu à ça, et aux préjugés, aux stéréotypes, etc. Et à chaque fois, par exemple, si on remet deux fois les mêmes adjectifs qualificatifs, on n'a pas la même Julia qui apparaît. Donc il y a un jeu un petit peu pour tromper le spectateur et qui s'interroge face à ce qu'il attendait, face à ce qu'il s'attendait à voir de moi. Voilà, donc ça c'est un petit peu sous la forme d'un jeu aussi. Il y a toujours une participation assez active du spectateur dans mes projets. À la Métis, je développe un projet un peu différent, puisque avant je travaillais sur l'intime, sur moi, etc. Et maintenant je me suis un peu ouverte au monde qui m'entoure, et je me suis posé des questions par rapport à l'environnement, à la question de l'environnement, notamment en Argentine. Donc je suis d'origine argentine, j'y habitais pour mes études et j'y retourne très régulièrement, tous les ans, plusieurs fois par an. Et donc j'ai commencé à travailler sur un projet autour du secret également, mais du secret d'État, on va dire. Donc je me suis intéressée à un groupe d'habitants qui habitent dans la Pampa humide, dans la province de Cordoba, et dont le village est entouré par des cultures de soja, enfin maïs, etc., des cultures vraiment très intensives. Et ils se sont rebellés un peu contre les pratiques d'épandage qui sont réalisées à proximité de la ville, puisque les agriculteurs n'hésitent pas à réaliser des fumigation par avion ou par voie terrestre également. Les conséquences sur la santé sont telles qu'ils ont dû se former un groupe pour dénoncer toutes ces pratiques. Je travaille avec eux, ils me donnent des informations. On va sur le terrain également ensemble. J'y suis allée déjà 4 fois à peu près, 5, 4 ou 5 fois, depuis 2018. Et au fil de mes visites, je construis le projet d'une manière un peu anti-documentaire, on va dire. C'est-à-dire qu'avec toutes les données que je peux collecter, les sons que je vais enregistrer, les photographies que je vais réaliser, je vais créer des petits dispositifs ou des actions pour évoquer ce problème dans cette ville de Canals. Donc c'est un groupe d'habitants. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ils se sont soulevés, ils ne se connaissaient pas forcément avant. Ils se sont vraiment rebellés ensemble et soudés pour lutter contre toutes ces pratiques. Là, on est à Buenos Aires, ouais. Donc au bord du Rio de la Plata. Et ici, on a Cordoba, donc par rapport à l'échelle du pays. Je sais pas s'il y a un plan du pays. Enfin, c'est vraiment au centre.
Okay.
C'est une zone. Ce point-là, c'est une zone assez. C'est très plat. Il n'y a pas du tout de collines, etc. Et c'est vraiment des champs à perte de vue. Je pense qu'entre ici et ici, tu as 800 km. Et à partir de là, c'est que des champs, que des champs, que des champs, que des cultures. Et on voit même que le dessin des routes est très quadrillé. Mm-hmm. Ça représente la séparation des parcelles, en fait.
Ouais.
Mais une échelle autre énorme. Voilà. Et donc, Cordoba est là, et Canals est par ici. Là. Je voulais travailler sur le sujet des pesticides en Argentine, parce qu'en fait, quand j'y vais, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à trouver une alimentation de qualité. Tout est très calibré, pas forcément très bon, et c'est très très difficile de trouver des produits bio ou différents. Enfin, il y a deux espèces de pommes, il y a deux variétés de pommes, pardon, il y a deux variétés de tomates, les rondes et les ovales, et c'est tout. Enfin, il y a plus grand chose en fait. Et il y a une législation très très complexe autour des semences et de ce qu'on peut planter même soi-même. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Et donc, je me suis interrogée là-dessus. J'ai contacté. Enfin, j'ai vu que à un endroit dans la province de Cordoba, Monsanto avait essayé de mettre une usine de semences, justement, transgéniques. Je pense que c'est 2010. Et un groupe s'est réuni, mais un grand groupe de personnes s'est réuni. Et ils ont réussi à faire reculer Monsanto et à ce que l'usine n'ouvre pas. Donc, parce qu'il y avait déjà des problèmes de santé dans les environs à cause de l'usage des pesticides. Donc, ils ne voulaient pas en plus une industrie de graines à côté. Donc, en creusant des tranchées pour que les tracteurs ne passent pas et ne puissent pas construire le lieu, etc. Enfin, bon, il y a eu tout un mouvement très, très important pour faire reculer Monsanto et ils ont gagné. Donc, je me suis un petit peu intéressée à ça. J'ai lu des articles et j'ai regardé même... J'ai trouvé un blog sur Internet avec une des personnes qui était présente sur ces campements, parce que c'était vraiment des campements de résistance. Je l'ai contactée par message. Il m'a répondu. Je lui ai demandé s'il avait des idées de lieux qui résistaient en ce moment à des... Je sais pas, à des groupes puissants, un peu dans le même... Dans le même genre, et si dans l'actualité il avait une idée d'un endroit sinon contaminé, etc. Et donc il m'a dit, je connais, enfin, il y a un groupe qui vient de s'unir à Canals, dans le sud de la province de Cordoba. Et ce qu'il me disait, c'est que voilà, il voulait bien me donner les contacts, mais si c'était pour faire un travail avec eux de longue haleine, on va dire, et pas juste aller photographier les problèmes. Les exposer et m'en aller sans jamais donner de nouvelles. Cette personne-là m'a dirigée vers ce groupe et ça tombait bien puisque quelques jours après, enfin je les ai contactés et quelques jours après, donc un 27 novembre, mais je sais plus si c'est 2017 ou 2018 pour tout dire, j'ai été invitée donc à une rencontre. Ils ont organisé une table ronde avec un médecin, un pédiatre qui constate beaucoup les effets sur les, tant sur les femmes enceintes que sur les bébés qui viennent de naître. Donc les effets des pesticides. Il publie régulièrement des articles là-dessus. Il a réalisé également des études sur le terrain pour démontrer tout ça. Il y a des cas pour les femmes d'avortement spontané, enfin de fausse couche, on dit en français, pardon. Il y a des cas de malformation. Il y a des problèmes d'asthme chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Voilà, des problèmes de peau. Donc lui, il essayait aussi de présenter un peu tous les problèmes que les pesticides apportent. Et donc c'était une table ronde ouverte à tous les citoyens de la ville, quoi.
Il s'appelle comment ce docteur ?
Medardo Avila Vázquez. Il y avait aussi un ingénieur agronome. Enfin voilà, il y a eu plusieurs personnes qui ont partagé leurs expériences, prévenu un peu sur tout ce qu'on peut faire aussi pour se protéger tant que les pratiques ne changent pas. Il avait parlé de toutes les barrières végétales qu'on peut installer en lisière des villes pour permettre d'éviter la dispersion des pesticides, donc pour stopper un peu l'arrivée des pesticides, mais... Il y a eu une intention à un moment à Canals d'en faire une, mais ils avaient planté 3 arbres au bord d'un champ face à la ville. Normalement, il faudrait une distance de 500 mètres entre le champ et la ville. Et ce qu'il me disait, cet ingénieur, c'est qu'il faudrait aussi que la barrière végétale ait une largeur de 80 mètres. Donc, c'est vraiment pas le cas. C'est le cas nulle part. D'ailleurs, je n'arrive pas à... J'aimerais en photographier une barrière végétale qui protège, mais j'arrive pas à en trouver. Donc, il n'y en a pas encore. Ce qui m'a intéressée, enfin là pour le coup, avec cette barrière végétale, c'est que les voisins, là, ce groupe de voisins l'appelle cortina vegetal, ça veut dire rideau végétal. Donc par exemple, là je vais travailler autour d'une œuvre, j'aimerais imprimer sur un rideau, ce fameux rideau végétal si j'en trouve un quelque part, et le placer après in situ, en lisière des villes, comme il devrait être, sauf qu'il n'est pas, et jouer avec ce qui est montré, ce qui est caché derrière le rideau, ce qu'on fait pour faire ce... semblant comme le jeu, presque, de théâtre, et pour contenter un peu les voisins, mais tout ce qui est à moitié fait, quoi, comme cette pauvre barrière qui avait été plantée, il y avait vraiment 3 arbres les uns à côté des autres, et on leur disait que ça allait les protéger. Donc voilà, jouer vraiment avec ça et faire une sorte d'action autour de ça. Voilà, donc ça, c'est des idées qui me viennent ici. J'ai réécouté beaucoup d'enregistrements, je retravaille toute cette matière pour avoir de nouvelles idées et des choses à réaliser assez prochainement, parce que je pense que maintenant, le projet commence à être un peu plus solide.
Vivemos nuestra salud. Invitamos a la población a participar del encuentro socioambiental por la salud y la vida, a cargo del doctor Medardo Ávila Vázquez, por el tema La salud y los agroquímicos. Hoy, 20:30, Salón Atilma.
La première fois que j'y suis allée, par exemple, j'ai collecté juste des sons. La deuxième fois, j'ai commencé à aller sur le terrain. On est allé à la décharge publique et donc j'ai réalisé des photographies, tout simplement. Ce jour-là, on a trouvé par exemple une soixantaine de bidons de pesticides, herbicides jetés comme ça à l'air libre et on a surpris un agriculteur en train de brûler. Parce que c'est une décharge à ciel ouvert, il y a un feu permanent en fait, donc c'est voilà, très polluant. Et il était en train de brûler des bidons qui avaient encore des restes de glyphosate à l'intérieur, donc notamment de glyphosate. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on a trouvé tout ça, les deux personnes avec qui j'étais du groupe ont appelé la police pour faire constater tout ça. Donc je les accompagne dans ces démarches-là. Après, mes photographies, par exemple, les photographies que j'ai réalisées ce jour-là, elles leur ont servi à eux de preuve, enfin de documents, pour prouver tout ce qu'ils avaient trouvé, et, voir si on pouvait enquêter d'une part pour voir qui avait jeté ça, parce que c'est illégal, normalement ça doit être recyclé, évidemment, et nettoyé, surtout. Et d'autre part, pour aussi... que la ville se rende compte de tout ce qui se passe et puisse trouver une solution, puisque le centre de recyclage le plus proche a fermé. Donc il n'y a plus de solution de recyclage de ces bidons-là. Donc les paysans, non, ce n'est pas vraiment des paysans, les agriculteurs les jettent soit dans la décharge sans aucun recyclage, soit les gardent chez eux dans les champs jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines et des centaines, quoi. Donc parfois, ce groupe retrouve des bidons très contaminants à un endroit, même au cœur du village, ça arrive également. Donc c'est très polluant. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ces images ont servi de preuve. Et donc moi, je me suis posé la question de la preuve par l'image. Et donc j'ai réalisé une vidéo en reprenant le tampon qui permettait de valider les images en tant que preuve, le tampon de la justice. Donc je l'ai copié, je l'ai imité. Et j'ai fait une vidéo qui tamponne ces images qui ont servi de preuve, une par une, d'une manière très rythmée. J'évoque comme ça le geste un peu automatique de « d'accord, je constate la preuve et puis finalement je la jette ». Et je me pose également la question de l'utilité de la photographie en tant que preuve quand elle est jetée comme ça... juste après, quand elle n'est pas utilisée. Ensuite, le groupe de voisins m'a donné des recherches qu'ils ont réalisées dans le village et ils avaient notamment marqué sur un plan tous les lieux dans lesquels ils étaient certains que des personnes rangeaient chez eux des produits chimiques. Quand je dis pesticides, c'est pas des petites quantités, le bidon de Roundup que quelqu'un pouvait avoir dans le temps pour désherber chez lui, c'est vraiment des quantités astronomiques, des cinquantaines de bidons pour des champs qui font parfois 300 hectares, enfin minimum. Voilà, c'est assez démesuré. Donc c'est vraiment des quantités astronomiques, ce qui fait que les vapeurs se dégagent des odeurs et ça pollue et ça a des conséquences notoires sur la santé, même si les autorités essaient de minimiser tout ça et donc de masquer entre autres les chiffres.
Colombia. En esta primera etapa, lo que estamos visitando la parte oeste de Canals, que es la parte oeste centro. Estamos al lado de la vía, para si lo buscas por Google Earth, puedas ver la vía donde entra de la parte oeste de Canals. El primer campo lindante nos divide la calle del acceso original de Canals, en el acceso original viejo de Canals. Desde la calle, que estamos a 20 metros del primer barrio, lo que estamos viendo es que el primer campo donde estamos parados ahora, tenemos un sembrado de soja que serán unas 50 hectáreas, y al lado de ese campo de soja, de charco de por medio, tenemos unas 100 hectáreas más o menos de maíz. Y bueno, y lo raro de esto es que hay un solo lugar en Canals donde no se produce soja al lado del pueblo.
J'aime bien aussi donner le micro, donc c'est-à-dire que je, enfin l'enregistreur et le micro, je le laisse entre les mains des personnes et des fois elles partent et donc elles m'enregistrent un message. Donc là c'est un des jeunes avec qui j'étais partie sur voir les plantations de soja. Donc à un moment il a pris le micro, il s'est isolé et puis il m'a enregistré un son pour contextualiser un peu là où on se trouvait, ce qui se passait, etc. Donc on est au milieu d'un champ, il nous explique les hectares, etc. Qu'à côté il y a aussi du maïs et qu'il y a un seul endroit à côté de Canals où l'on cultive pas de soja. Et donc c'est chez son voisin. Donc après il explique que c'est son voisin qui a des animaux mais qui travaille tout de même pour les personnes qui ont des grandes cultures comme à côté. Voilà. À partir de ces données, avec le plan de la ville et ses lieux répertoriés, moi j'ai créé une œuvre sur laquelle j'ai imprimé un tissu avec le plan de la ville et je mets de l'encre sur ces lieux. Et après, cette encre se diffuse en gros et le village devient tout noir. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Je vais expliquer aussi l'œuvre qui est à côté, qui est peut-être un peu plus facile à faire imaginer. J'ai disposé des graines de soja. Elles ont la forme du plan de la ville, donc j'ai retracé le plan de la ville avec des petites graines de soja. J'ai arrosé durant 28 jours, j'ai photographié également tous les jours, et puis après j'ai sélectionné 9 images, qui sont donc, c'est un format carré. Le plan de la ville est tracé, et quand on regarde les images et la progression des images, on voit que les graines ont germé, donc ça pousse. Et à la fin, la dernière image, c'est vraiment un carré tout vert. Les lignes sont complètement effacées. Il y a tout un travail sur cette invasion du soja vraiment dans la ville même, quoi. Et tout ce que le soja transgénique, bien sûr, apporte au village. Donc ça fait allusion, encore une fois, à l'usage des pesticides, à l'usage d'une graine hybride, etc. Donc...
No tenemos ese apoyo de nuestras autoridades. Antes era totalmente nulo, mal. Ahora, con este nuevo gobierno, al menos, mirá con qué poquito nos conformamos. Tenemos diálogo.
Tiene una ventaja, ¿sabes cuál es? Que este no tiene campo, como si tenía el anterior.
Claro,
alors le hasard fait bien les choses, c'est un extrait assez intéressant. Donc la personne, elle explique qu'ils n'ont pas le soutien des autorités, du gouvernement. Donc par contre, ce qui a changé depuis la dernière fois que j'étais passée, c'est que le nouveau maire, au moins, n'a pas lui-même de terre agricole. Donc ça évite un certain nombre de conflits d'intérêts. Et donc c'est vraiment très représentatif en fait. Tout le monde a son petit... s'enterrer d'abord et donc ferme les yeux sur tout un tas de pratiques et même conséquences, parce que des gens qui travaillent dans ces champs s'exposent vraiment à tous ces produits, mais pensent vraiment qu'à la rentabilité et ce que ça peut leur apporter, quoi. Donc voilà, ils ferment les yeux sur... Il y avait l'exemple d'une personne dont le fils avait un cancer, mais lui, il continuait à travailler et à vivre à côté de tous ses champs, et il ne se rendait pas compte que peut-être ce cancer était lié à toutes les pratiques environnantes, quoi. Donc, voilà.